Je suis un modeste élu de base, conseiller municipal d'une commune de moins de 3000 habitants, voisine. J'avoue que si José parlait de l'ESS en conseil municipal, je pense qu'on le prendrait pour les adeptes d'une secte, une cause perdue. Ouais. Toujours est-il que depuis ce matin, bon, à titre personnel, j'ai fait un master de responsable d'entreprise d'économie sociale et solidaire il y a 2 ans, donc je suis un petit peu au parfum quand même. Mais je me rends compte à quel point il y a une distorsion entre les réalités de terrain et tout ce que j'entends depuis ce matin. Néanmoins, il y a des éléments qui me paraissent très importants, notamment ce matin il y a eu une intervention qui posait la question du rôle citoyen de l'ESS. Bon. J'entends tout à l'heure que l'état des finances publiques allait peut-être amener des maires, notamment, à s'intéresser plus près à l'ESS. Ceci étant dit, moi j'aimerais savoir comment, concrètement et pratiquement, l'ESS dans un territoire notamment communal, peut-être présenter ses attraits, son intérêt, concrètement, pratiquement. Hein, qu'est-ce que je dis si demain, j'interviens au conseil municipal, je me suis dit, faisons fi de ce projet de comment je le vends, hein, voilà. Moi, c'est un peu ça qui m'intéresse. Hein. Au-delà de tout ce que j'entends et qui a un sens, hein, c'est un sens, bien sûr. Mais avouons que ce qui m'apparaît encore plus flagrant aujourd'hui, quand on parle notamment publiquement dans les débats de millefeuille, tu l'as dit là, on n'est plus dans millefeuille, là. On est, c'est une pâtisserie exotique qui développe des couches à l'envie. Je me dis, c'est impossible, impossible, impossible de faire comprendre ça à, excusez-nous, le genre de base.
Non, c'est pas possible.
C'est pas possible. Donc, alors après,
là, on serait du coup sur une contrainte à l'heure actuelle. C'est ça, de dire qu'à l'heure actuelle, dans les collectivités, en tout cas, peut-être les petites collectivités, aujourd'hui, c'est
commun.
Il n'y a pas de réalité de l'ESS par rapport aux élus, par exemple.
Ignoré.
Et les élus, parfois leur grande surprise, s'aperçoivent très très vite que sur une zone territoriale donnée, on est tout de suite à 20, 30, voire 40% d'emplois locaux constitués de.
Ah oui, je suis persuadé que.
Et ça, les élus ne le savent pas.
Ils en font sans le savoir.
Quand ils subventionnent telle association, etc.,
ils sont dans la.
Il est certain, si je pense que. Crédit mutuel, crédit coopératif, caisse d'épargne, etc., oui,
ils ont fait
des salariés.
Non, mais
là, ils ont sorti. Non, mais avant de rentrer dans ce genre de. S'il vous plaît.
L'association culturelle, le centre social, pour peu que vous ayez adopté la
loi. Ben c'est bon, on a tout.
Ça peut être une façon de voir la société. Quand ils se rendent compte qu'on est cher, une partie importante de leurs concitoyens travaille.
Voir eux-mêmes, oui. Vous aviez un deuxième élément d'ailleurs, donc peut-être vous voulez terminer.
Non, mais le deuxième élément, ça serait plus l'outil citoyen. Voilà. Comment je fais, puisque ce matin on a quand même eu quelques interventions qui tournaient autour de la notion de transformation de la société, de l'approche économique, du schéma, du modèle classique, etc. Et c'est vrai que là, bon, c'est en tant qu'outil de l'ESS, comment le traduire là encore concrètement, hein, au-delà de la simple référence économique, hein, je veux dire comment je traduis dans l'approche du tissu économique local, est-ce que, bon ça rejoint mon premier point, mais comment je fais le lien si je suis dans une zone économiquement sinistrée ou avec très peu d'emplois, ou par exemple une commune décide d'urbaniser, de faire venir des populations, de déplacer des populations, parce que c'est souvent ce qui se passe aujourd'hui dans le cadre de plans locaux d'urbanisme. On urbanise, on fait venir des populations dans des zones où il n'y a zéro emploi. D'accord ? Donc on augmente des contraintes, on augmente des difficultés sociales qui existent déjà, en obligeant les gens à se déplacer encore. Enfin, voilà, je dis comment l'économie sociale et solidaire, concrètement et pratiquement, pourrait être un outil pour relier justement ces aspects économiques et puis solidaire. Parce que j'entends souvent le raccourci économie sociale. On dit souvent solidaire.
Alors, j'avais deux personnes qui voulaient intervenir. Madame Boyer, peut-être ? Tout à l'heure, vous avez levé la main.
Oui, alors, c'était une réaction. Comment on peut mieux communiquer en fait sur ce qui est l'ESS. Donc, moi, je travaille avec la Conseil commune Val du Rhône. Donc, on a commencé à faire de l'ESS avant que l'ESS existe, en fait. On peut dire que c'est quelque part qui réunit les élus et puis un certain nombre d'acteurs sur le territoire, c'est des valeurs de solidarité et de coopération. Donc, déjà, c'est de rentrer par les valeurs. Et c'est vrai que là, au niveau des différents niveaux, on va dire, de projets de développement, hein, quand on regarde des projets, notamment avec la région, en fait, même si on va partager par tous les élus, même que c'est toujours sur cause sur les piliers développement, environnement, solidarité et participation. Hein, et sur les valeurs aussi qui sont portées par la communauté commune. Alors après, ça se transcrit de façon différente, hein, moins portée. Et je voulais réagir tout à l'heure parce que quand effectivement on a commencé à parler d'économie sociale et solidaire à la communauté commune en 2001, hein, quand il y a eu 2002 au moment du secrétariat d'État, effectivement, même moi, je ne suis pas très présente, les élus ne comprenaient pas du tout ce que ça disait. Et en fait, comme je dis, moi, on a regardé ce qui se passait sur les territoires, les services qui existaient, les associations, les entreprises. Et là, du coup, ça a donné un sens. C'est vrai que du coup, quand on parle toujours encore de SS, comme ça, c'est pas une valeur qui est encore portée. Dans le premier CDDRA, il y avait zéro mot sur le SS. Dans le deuxième, il y avait une phrase. Aujourd'hui, dans le projet Biovallée, il y a un paragraphe. Caricature un tout petit peu, hein, Et en fait, quand on regarde à l'intérieur, il se passe plein de choses. Et les programmes régionaux soutiennent des actions qui sont portées par les ESS, par les acteurs de l'ESS, pour en fait directement. Mais on n'a pas toujours à poser en fait la terminologie et puis l'action concrète sur le terrain.
Tu sais d'intervenir, je crois.
Oui, il y a plein de choses qui ont été dites. Moi, je suis Nicolas Martinez, je suis le titre du groupe majoritaire politique à la ville de Grenoble. Donc, j'ai été embauché pour travailler sur les questions de commissaire et solidaire. Parce que justement, c'est une thématique qui doit être fortement portée par la ville qui est au parti du groupe majoritaire à la métro de Grenoble. Mais c'est vrai que j'ai une autre casquette et par ailleurs, je suis membre fondateur de l'Alpe Solidaire. Et c'est vrai que. Moi, la chose s'est posée, donc j'ai été aussi directeur d'une structure de commission de solidaire pendant quelques années, donc j'ai beaucoup fréquenté les différentes instances, etc. Ce que je tiens à rappeler, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs de commission de solidaire qui ne se reconnaissent pas du tout dans les instances de et malgré, par exemple, la laquelle du travail qui peut être fait à la CRE. Voilà, on va trouver les grandes fédérations, on va trouver les grands secteurs d'activité. Mais je tiens du coup la plus avec le casquette d'acteur, c'est-à-dire qu'il y a un foisonnement associatif sur les territoires qui n'est pas forcément visible, qui n'est pas toujours forcément considéré. Mais je crois, qu'il y a une réelle dynamique des acteurs, des citoyens, une réelle dynamique associative sur les territoires, et qu'à un moment donné, il va falloir aussi à un moment donné la considérer parce que. Les commissaires solidaires ont commencé à prendre un petit peu ces galons depuis une dizaine d'années quand on a commencé à la quantifier. Il y a parlé du poids des commissaires solidaires en termes d'employeurs, en termes de salariés, en termes d'emploi. Puis voilà, ils commencent à regarder un petit peu autrement. Il y a des dynamiques citoyennes qui sont fortes sur les territoires. On ne reconnaît pas les collectivités. Une grande ville, enfin, je veux dire, la ville de Grenoble, ça fait pas 20 ans, peut-être 15, donc il y a une investissement des commissaires solidaires. On a une la métro qui a investissement depuis de nombreuses années. Et puis les allers-retours se font bien FDD avec la région, avec la ville de l'État. Voilà, pour autant, les acteurs, on voit bien qu'il y a un groupe de politique volontariste, acteurs pour peu qu'ils ne soient pas un peu fédérés régionalement ou nationalement, c'est quasiment un bon français.
C'est un peu par rapport justement aux propositions de la loi qui sont une stratégie régionale et la mise en place d'une conférence qui associe des entreprises de l'ESS. Hein. En tout cas, dans les textes, c'est comme ça. Comment les acteurs de l'ESS aujourd'hui, selon vous, là, peuvent se saisir de ces éléments? En plus, M. Kretschmar a expliqué que les acteurs de l'ESS, à l'heure actuelle, sur les objets existants, ne sont pas forcément bien structurés, voire moins présents. Donc comment les acteurs de l'ESS peuvent faire ce lien avec les collectivités?
Soit effectivement ils se structurent eux-mêmes, de leur propre initiative, voilà, ça part de deux. Donc je pense que la puissance publique doit contribuer à donner des espaces, un cadre aux acteurs, qu'ils puissent se rencontrer, qu'ils puissent co-construire, qu'ils puissent collaborer. Sinon, on va souvent s'adresser aux grandes familles de l'ESS, qui vont déjà avoir des structurations verticales, nationales, et qui vont pouvoir être représentées au sein de la CRES, qui vont pouvoir être considérées par les grands projets politiques, etc. Mais à un moment donné, je pense qu'il y a une importance à vraiment regarder sur les territoires, il n'y a pas de généralité en tirer, mais vraiment regarder quelles sont les dynamiques de projet politique qu'une collectivité peut avoir, là, comment est-ce qu'on se saisit et qu'on s'appuie sur les acteurs, que la collectivité là, devienne un levier.
Alors, monsieur Tessigui,
il y a une chose que je fais un constat sur le terrain, peut-être que ça semble par rapport, c'est qu'on a des limites de tuyaux dans ces acteurs-là. Moi, je suis dans différentes structures, elles ne se connaissent pas, je veux dire, dans le domaine de l'IAE, elles ne connaissent pas forcément les gens qui travaillent spécifiquement dans le système culturel et choses comme ça. Donc, déjà, il faut poser ce qu'à faire. Puis un deuxième point qui m'interpelle, si aujourd'hui je le crois encore, les pays n'ont pas encore bien compris ce qu'il y avait derrière le vocable économiste social solidaire, je m'interroge si demain on faisait un micro-trottoir auprès, ça y est, dans la société de l'ESS. Et
en plus, encore moins.
On reste persuadé qu'il y a un problème qui va revenir à l'économie. Donc il y a un problème, je pense, de visibilité, vous avez raison. Cette économie sociale est partout. Mais ce n'est finalement, il y a comme vous disiez, madame, à coller derrière, en fait, il va falloir, quelque part,
du concret.
On disait du concret, de la pédagogie, de l'éducation citoyenne.
Éducation,
parce que, effectivement, pour que l'ESS fonctionne, derrière, il y a des usagers, il y a des clients, il y a des coopérateurs. Et bien, tant qu'on. Ce qu'on appelle la transition citoyenne nécessaire est utile aujourd'hui. On parle de transition écologique, énergétique. Aujourd'hui, il y a nécessité de descendre au niveau du citoyen. Et ça ne pourra fonctionner que quand il y aura adéquation entre le citoyen de base et toutes les politiques et les acteurs de l'ESS qui sont sous
terre. Alors, n'oubliez pas que la thématique de l'atelier, c'est bien la cohérence entre les différents niveaux d'action des collectivités sur l'ESS et la question de la transversalité. Donc c'est vrai qu'aller sur la visibilité, la lisibilité de l'ESS peut être un enjeu par rapport à ça, mais je veux que vous ayez bien cette idée. Il faut se recentrer peut-être sur cette thématique et ne peut-être pas... Mais c'est vraiment une problématique qui me semble intéressante.
Oui, tout à
fait, tout à fait. Vous aviez une remarque?
Oui, j'avais deux, trois trucs au fur et à mesure, j'essaie de tout me rappeler. J'ai eu l'impression quand... Ah, si il s'en va. Juste par rapport à ce que vous disiez sur les gens non organisés qui sont pas, je veux pas être méchant, bon Bruno Lang, excusez-moi, pour aider aujourd'hui, mais pour d'autres choses et tout, et ça fait pas mal 30 ans que je traîne dans le secteur, parce qu'il s'est appelé économie sociale dans les années Rocard, qui s'est appelé éducation populaire avant, voilà. et qui s'appelle l'éducation ESS que depuis 2004, c'est-à-dire après le forum social à Paris. C'est à ce moment-là que les deux familles se sont parlé. Mais dans les années 2000, il y avait l'économie sociale et l'économie solidaire. Et les gens de l'économie solidaire disaient qu'ils ne voulaient pas être dans l'économie sociale parce que c'était trop institutionnel. Alors, c'est vrai qu'on peut répéter sans arrêt ce genre de discours, mais je veux dire que quelque part il faut essayer de travailler ensemble, élus, institutions, enfin, avec nos différences, avec nos engueulades, mais arrêtons de poser ça j'ai l'impression en préliminaire de certaines choses. Même chose au niveau de structure par rapport aux élus locaux. par rapport au niveau local, au niveau d'élus qu'il faut rencontrer. Sur Cray, nous avons deux structures d'économie sociale. Une qui fait, qui a 12 ans d'âge, qui est une coopérative d'activité, qui fait aujourd'hui 2 millions de chiffre d'affaires, qui représente 70 personnes, 80 personnes, qui s'appelle Solstice. Et une autre qui est un des exemples dans tout le monde médiatique de l'économie sociale qui s'appelle Terre de Lien. Tout ça, on a ces deux structures-là sur Crète. Ben, vous savez, notre député maire n'est jamais rentré dans leurs locaux, n'est jamais venu les voir, essayer de comprendre, ne les invite jamais à une table pour essayer de comprendre ce qui se passe. Ces structures ont réussi à se développer en travaillant avec les communautés de communes, en travaillant avec la région, en travaillant avec le département, en travaillant avec l'État, en travaillant avec les fondations. Je crois qu'il faut trouver ces... aujourd'hui, on ne peut pas essayer de dire qu'il y a une chaîne hiérarchique de communes, communautés de communes, départements, encore moins aujourd'hui, régions. Je crois qu'à chaque structure, à chaque projet, il faut trouver ses interlocuteurs, essayer de trouver ses interlocuteurs. Et c'est pas toujours facile, je reste optimiste que c'est quand même l'initiative avant tout de nous citoyens dans notre projet et que quelque part on essaye de se faire accompagner et si on n'y arrive pas, ben on réessaye ailleurs et on continue notre projet.
Monsieur Christian,
je voulais rajouter au débat une petite chose. Je suis sensible à l'appel du collègue Yudena. Moi, je ne suis pas l'original, je suis aussi les bases touchées par ça. Je crois que là où on n'a pas encore beaucoup travaillé, c'est sur l'émergence de projets locaux et sur l'outillage de cette émergence. On rentre dans la technocratie à nouveau, mais la Caisse des dépôts est en train de travailler en ce moment à l'enrichissement d'un outil Internet qui est un hub de la finance. En fait, quand je suis porteur de projet, où est-ce que je vais pouvoir trouver un partenaire bancaire? Et pour les petites structures, notamment les groupes sociaux, c'est très compliqué, parce que les banques sont comme les élus, sont comme tous les citoyens. Quand on leur dit RSS, ils disent « Oh là là, danger !» Alors je ne connais pas, ou alors je perds de l'argent. Donc c'est un truc tout bête, mais comment faire en sorte que partout en Rhône-Alpes, partout en France d'ailleurs, on puisse avoir accès à une information qui nous donne un fléchage, j'ai un projet de telle nature, voilà quels sont mes partenaires possibles. Même chose sur toute la fonction d'incubation. Donc faire émerger la réponse à un besoin non couvert, c'est déjà un problème en soi. Quels sont les besoins qui ne sont pas couverts aujourd'hui? Comment on peut les identifier? C'est un peu la même façon que identifier les réponses actuelles à l'ESS. C'est quelque chose qui reste à défricher beaucoup. Et une fois qu'on a identifié ce besoin, comment constitue-t-on un projet, les éléments d'un projet? On a des incubateurs, on a des pépinières, donc on a des coopératives d'activité, des couveuses, qui sont encore très rudimentaires, qui ne sont pas encore très structurés dans leur contenu, et qui ne sont surtout pas accessibles au plus grand nombre. Donc il faut que, semble-t-il, cette communauté, qui est effectivement très disparate d'élus, d'acteurs publics, se mette plus au service de l'ensemble des citoyens, pour rendre tout ça vraiment accessible. Parce qu'au bout du compte, pour moi, l'économie sociale, c'est de l'économie. Quand je parle avec des élus locaux, je ne parle quasiment jamais de l'ESS, je leur parle d'économie de proximité. C'est un concept qui est assez facile, ça leur parle directement, parce qu'ils se disent, je suis complètement broyé par l'économie globale, comment je crée de la richesse localement? Et donc, que ce soit l'artisanat du commerce, de la TPE, de l'ESS, à une ça n'importe pas beaucoup, pour eux en tout cas, pour moi un peu plus quand même. Ce qui est important, c'est de trouver des mécanismes de création de richesses locaux. Et si, en plus, c'est de l'aventure collective, à ce moment, on apporte les outils de l'ESS, c'est pas mieux.
Est-ce que...
Oui, c'est un peu dans son cas du tout. On travaille un projet au niveau du territoire. Hein. C'est un projet de territoire, avec, par exemple, le développement d'une économie résidentielle, avec une population qui se dit, à l'intérieur, il y a un objectif, justement, de soutenir, on va dire, les entreprises de l'ESS, mais la finalité, au départ, elle est sur le cadre de vie, la création de richesse.
Et on est en plein dans la transversalité.
Et voilà, on est dans la transversalité. Et puis, à l'intérieur, il y a des objectifs quand même, des enjeux pour certains. Disons, quand on va créer du emploi, et bon, on va essayer effectivement de faire en sorte que ça soit pour une partie des emplois qui relèvent de l'ESS. Voilà.
Mais on peut pousser le bouchon un petit peu loin en travaillant avec les élus locaux, donc les partenaires économiques, en leur montrant que l'entrepreneuriat collectif, c'est une façon tout à fait intéressante de répondre à des besoins non couverts. C'est pas simplement donc une part, donc ou un supplément d'âme, c'est une façon originale et intéressante de créer de la richesse sociale. parce que de plus en plus, les besoins locaux qui ne sont pas couverts nécessitent des réponses collectives. Et l'organisation collective, ça tombe bien, c'est le CES.
Monsieur, vous vouliez intervenir ?
Pardon, non, simplement sur la difficulté qu'une collectivité locale, votre commune, monsieur, a de trouver des exemples, par exemple, je suis technicien à la région gouvernementale de l'ESS, de trouver des exemples concrets à donner, bah, justement, comme exemple auprès de vos citoyens, de prendre un certain champ associatif. Hein, mais prenez par exemple, c'est-à-dire, très souvent, les personnes ont une mutuelle, par exemple, vous êtes en chambre de l'ESS. Très souvent, enfin, je ne comprends pas, vous avez un acteur de l'ESS, mais très souvent, les personnes ont eu des enfants qui ont été dans des crèches. Très souvent, vous avez des seniors qui font appel à des services à domicile, gérés par l'ANR ou gérés par une structure associative. Là, simplement lors d'une conférence publique ou autre. Après, vous avez également, pour l'acculturation des élus, je ne suis pas élu, mais pour l'acculturation des élus, généralement, les élus appartiennent à des centrales politiques qui en organisent de formation professionnelle. Alors, là aussi, peut-être que dans ces centrales politiques...
Moi, j'en ai bénéficié. Je le dis, hein. Moi, j'en ai... durant mon mandat de vice-présidente, j'ai passé un master 2 ESS, donc en tant qu'élu local. Donc, bien sûr.
Alors, peut-être que pour l'acculturation des élus, rien que, sans forcément passer un bac plus 5, mais tout au moins avoir une
fois capitalisé, hein.
Ou une semaine de formation, c'est peut-être aussi le rôle des organismes de formation,
bien,
des organismes politiques, qui ont un rôle à jouer par rapport à l'ESS, par rapport à la vulgarisation de l'ESS, en tout cas.
Ce qui me paraît important, oui, pardon.
On est aussi sur la preuve, par exemple, vous avez quand même des dispositions qui sont financées par les pouvoirs publics, que ce soit l'État, les régions, les départements ou autres, dans le cadre de l'observatoire de l'économie sociale et solidaire. Ce sont des missions qui permettent normalement aux élus locaux d'obtenir de la statistique, parce qu'il y a un travail qui a été fait par l'État au niveau national, pour avoir à l'INSEE une base commune au niveau des chiffres. On parle des chiffres de l'emploi, du stress de l'économie, de
l'économie.
Tout ça a été fait avec la télémarque nationale.
Oui. Et d'ailleurs, dans le cadre de la loi, la fonction d'observatoire, elle apparaît. Par contre, ce qui me paraît intéressant, c'est qu'on a des techniciens et des élus là autour de la table. Et moi, la grande question que je me pose, c'est, puisqu'on se pose la question de la cohérence entre les différentes politiques, comment aujourd'hui, d'une part, on arrive à travailler sur l'ESS avec les techniciens et comment on arrive à les faire coopérer d'un service à l'autre. Par exemple, quels facteurs on peut mettre en place pour développer des modes de coopération entre services pour aller vers des politiques transversales de l'ESS. C'est quoi aujourd'hui? Là, je suis sûr que vous avez des réponses à donner par rapport à cette question avec vos expériences.
Quel technicien tu parles?
Et technicien de développement économique.
Ouais, tous les techniciens. Tous les techniciens. C'est-à-dire qu'en fait, là, je fais la distinction entre élus et techniciens, et je pense que la problématique, elle est dans les deux cas. On a vu avec les élus, mais on le voit aussi avec les techniciens, quoi. Et comment aujourd'hui on arrive à faire de l'ESS avec des techniciens? Allez-y.
Moi, je voulais juste, par rapport à cette question, apporter un éclairage personnel. Donc, moi, je suis chargée de mission pour une association qui porte des projets de développement, en général, assez innovants. Et du coup, je m'y retrouvais quand vous parlez des fois de difficultés de communication, etc. Moi, il me semble que ce qu'on a pu expérimenter chez nous sur la question des politiques temporelles, qui sont aussi des démarches nouvelles à apporter sur les territoires, c'est qu'il y a beaucoup de travail à faire sur les terminologies et souvent apporter sa spécificité comme un plus et pas comme une différence. C'est-à-dire que pour moi, les entreprises de l'économie sociale et solidaire, de ce secteur-là, elles font avant tout partie du développement économique local et c'est bien en se rapprochant des acteurs de l'emploi, de la formation et du développement économique dont on est membre à part entière et pas forcément en s'extrayant. C'est-à-dire que, il me semble que dans l'économie classique, il y a aussi des valeurs de développement qui sont intéressantes et c'est plutôt en se rapprochant, en trouvant les points d'accroche, les choses qu'on partage, qu'on a un peu plus de force pour dire qui on est en termes de faire sortir ces particularismes et de dire que ces associations, ces structures qui sont sur votre territoire, elles sont aussi des employeurs, elles sont aussi créatrices de richesses humaines et de développement de services et d'actions locales et elles font partie de ce tissu-là. Donc elles ont une spécificité, mais elles sont intégrées.
J'entends très très bien tout ça. Ouais. J'entends très bien le point de vue du technicien, des techniciens. Si je reviens à l'intervention de monsieur,
le député maire de la ville qui habite et qui héberge ces deux structures dont vous parliez, a pour des raisons idéologiques, ignore complètement cette réalité. Bon, moi, la commune d'où je viens, c'est un grand ami de votre député maire. Donc, imaginez la difficulté de parler de l'ESS. Voilà. Alors, après, on se pose la question, et ça m'est douce à l'esprit, sur l'échange, initiative citoyenne, outil citoyen pour faire avancer l'idée d'une économie sociale, solidaire, transformée, à un moment donné, va se poser le problème, de savoir si je crée parallèlement des initiatives citoyennes, pour amener une autre réflexion, une autre approche, et donc je contourne le mandat électif. On est bien d'accord. Je me retrouve donc en tant qu'élu, un pied dedans, un pied dehors. Sur quel pied je vais danser, je ne sais pas encore, mais j'en ai toute idée quand même, parce que sinon, comme ça va pas être possible.
C'est vrai que vous êtes hors sujet, mais cela dit, c'est très intéressant. Mais ce que je vous propose, c'est que cette discussion puisse se poursuivre peut-être après l'atelier, qu'on essaye de finir un peu sur ce sujet. Madame Brémond, vous avez une remarque, je vous ai vu lever le doigt tout à l'heure, donc peut-être.
Il y a des choses qui sont en contre-temps, par rapport aux mots, je suis tout à fait d'accord que les mots qu'on utilise et les définitions qu'on en donne est très importante et parfois très, très bloquante. En développement local, on sait très bien qu'on n'utilise pas les mêmes mots quand on est à un niveau en région ou autre, au montage de dossiers et localement. Sinon, on se fait prendre... Enfin bon, c'est pas possible. C'est juste... pas possible. Quand on parle d'économie sociale ou solidaire ou je sais pas, de tourisme expérientiel ou choses comme ça, oui, on en parle quand on dépose le dossier, mais non, on ne dirait pas quand on travaille sur le territoire. Donc il faut qu'on arrive à jouer et à pouvoir utiliser ça. Bon, moi, j'ai une expérience élue technicienne, donc j'ai navigué un peu dans les deux. Mais une expérience que je tire depuis longtemps, si on parle d'habitat social, donc des OPH, qui existent depuis fort longtemps, dès l'instant qu'on utilise habitat social, on est bloqué. Donc, alors qu'il y a plus de 80% de la population de nos territoires ruraux qui y ont droit,
qui
sont éligibles, avancer, il y a des mots qu'on va utiliser. C'est une démarche de Sioux. Une dernière chose, après la collectivité dont va parler pour nous Futur PAC, mais l'objectif c'est quand même d'être au service d'eux et donc de rencontrer des porteurs qui viennent nous solliciter, qui viennent solliciter les élus et derrière on est. Et nous, ça fonctionne un petit peu comme ça, enfin même pas mal comme ça, où il y a des groupes, par rapport à le premier, entre autres, sur les co-constructions, il y en a travaillé avec Aidé, qui nous a aidé à mettre en place un groupement d'employeurs, et de créer ensuite, d'ailleurs, un groupe collectif où ils ont des bureaux, c'est architecte et tout ce qui est autour de l'éco-construction, et ils répondent à des appels d'offres. C'était pas prévu au début, ça a tellement bien marché qu'ils ont créé ça. Il y en avait un à l'intérieur de ce groupe-là qui travaillait sur l'assainissement, qui a dit que c'est très bien, et qui a monté un autre groupe autour d'éco-assainissement, qui ont sollicité Saint-Micamix, et on travaille, on a la chance d'avoir des financements au niveau de la région très réactifs pour monter des études de faisabilité. Donc voilà, la collectivité a porté pour un groupe, pour les aider à se structurer. Ils viennent de créer l'éco-pôle, le pôle éco-assainissement des Baronnies Provençales. Donc on a l'éco-pôle des Baronnies Provençales qui a été fait avant. Et voilà, c'est un petit peu, ça fait boule de neige. Et là, comme c'est quand même de l'économique, ce sont des gens du territoire qui sollicitent, c'est en moyenne entre 5, 7, 8 entreprises ou micro-entreprises, ça passe plutôt bien au niveau des élus, on arrive à répondre répond à ça. Bon, voilà, c'est juste.
Madame Sommer,
je comprends bien la question. C'est vrai que
je ne voulais pas parler du thème.
Il est dans l'opposition. Il faut dire qu'il est dans l'opposition, c'est compliqué. C'est politique.
D'opposition dans une
voilà.
Opposition. Moi, je suis venu des oppositions en une de 14 000. Donc, ce n'est pas facile tous les jours.
C'est ça.
Moi, je pense une chose, c'est qu'en fait, même dans la plus petite des communes, on fait d'économie sociale et solidaire sans savoir. Bon, je vous mets sur des sujets tout bêtes. Tout bêtes. Pas de centre social d'action, mais malgré tout, je pense qu'il y a quand même un tout petit peu de politique sociale dans les communes. Non, mais non, bon, alors ce n'est pas le bon exemple.
Je suis associatif qui danse.
Voilà. Mais par
exemple,
sur quelque chose, peut-être une thématique que vous
êtes. L'emploi des jeunes.
D'aborder.
Vous avez beaucoup de jeunes.
Toutes les communes ont l'obligation de mettre en place des rythmes scolaires.
C'est fait.
Bon.
Voilà, ça.
Alors par exemple, ça c'est un sujet.
L'emploi des jeunes, c'est très bien.
Je pense qu'on peut essayer d'instiller un peu d'économie sociale et solidaire. Pourquoi? Parce que, on a bien vu la montée au créneau par le biais de l'Association des maires de France, qui ont crié très très fort leur désaccord, qui est certainement justifié d'ailleurs, sur le fait que pour une petite commune qui n'a pas de moyens, mettre en place un rythme scolaire, c'est extrêmement compliqué. Parce qu'on ne peut pas s'adosser sur des animateurs qu'on a déjà, comme quand on est une ville de 15 000 habitants. Donc il faut bien, à un moment, s'appuyer sur le tissu associatif si on en a un. C'est pas possible. Et bien quand on fait ça, et bien on fait des économies sociales et solidaires. Tout bêtement. Ça, c'est un exemple. Moi, je vais vous dire, j'ai vu passer dans la presse, dans ma région, une ville pas d'une très très grande importance, qui s'est saisie du problème, qu'elle s'est rendue compte qu'une partie de sa population, aujourd'hui, n'avait pas les moyens de se payer le complémentaire santé. Qui s'est saisie de ce problème et qui lance un appel auprès de plusieurs mutuelles, et c'est elle qui prend la main là-dessus en disant voilà, je veux que ma population vive mieux et ait une couverture médicale, voilà. Ben, quand elle fait ça, elle fait des
économies. Ah, mais c'est
ça, c'est cher. Voilà, ça, vous voyez, c'est deux exemples de la vie tous les jours.
Sur ça.
Bon. Non, mais je vous donne ces exemples-là, parce que ce sont peut-être pas les bons, ce sont peut-être pas la taille de votre commune, pourquoi pas.
On a un peu plus de chance, il n'est pas là en ce moment.
Donc on a pas la main, c'est compliqué, là.
C'est
tout cas, c'est sur cette note de...
C'est prenant, la télé, là.
C'est sur cette note de bonne humeur que je vous invite à terminer cet atelier. Bon, vous n'avez pas trop abordé la thématique.
Non, on a digressé.
À mon avis, il y a une boîte noire sur le travail, la coopération entre les collectivités qu'il faut encore continuer à bosser. Mais en tout cas, je vous remercie pour cette participation. Et on va voir ce qu'on arrive à en sortir. Merci beaucoup à vous. Voilà.
On n'est pas allé sur la
transversalité. Non, mais c'est important. L'échelon communal, moi j'étais...
On voit que
c'est pas possible.
Oui, je comprends.
C'est la jeunesse.